avec Marjorie Théodore, qui est présidente et directrice générale de Canal M Vues et Voix. En fait, c'est comme une amie, là. C'est pas vraiment une patronne, il faut le dire. C'est plus que oui. C'est vraiment, elle est toujours très souriante. Oh, ouais. Vraiment, c'est quelqu'un de très sensible, positive, généreuse, à l'écoute aussi. Puis c'est pas parce que tu es devant nous, là.
Merci.
Non, c'est sûr. Alors vraiment, puis c'est un coup de cœur, là, parce que sinon, ben, tu serais pas là.
Et peut-être que toi non plus, tu serais pas là. Exactement.
Alors, c'est un plaisir partagé.
Oui, exactement. Ben, oui.
Alors, une femme qui change le monde à sa façon. Et puis, ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Femme d'affaires, leader, visionnaire. Enfin, on va vraiment parcourir, tout, en fait, ta vie aussi en même temps. On a toute l'heure pour le faire. Alors, Marjorie, c'est un plaisir d'être avec toi.
Pour moi aussi. Puis, merci pour l'invitation.
Et oui. Tu fais ça, tu as tout un parcours de vie. Bon, alors, tu es d'origine haïtienne, mais j'aimerais ça qu'on parte dès l'enfance, parce que c'est très riche et ça te définit en même temps. Parce que tu pars d'Haïti, ton père est médecin. Hein?
Oui.
Alors lui, il va voyager. Tu vas voyager en Afrique très jeune, alors que tu ne t'en souviens pas même que finalement, je pense que ta mère a dû rester, elle, un moment en Haïti, le temps que tu grandisses dans son ventre.
Exactement, oui, tout à fait. Ah oui, c'est sûr. D'origine haïtienne, et puis comme j'aime bien beaucoup le dire aussi, bien ancrée dans mon identité haïtienne et après québécoise, parce que j'ai passé plus de temps aussi au Québec. Donc, oui, je suis partie d'Haïti, j'avais 2 ans, mais sauf que mon père est parti en Afrique avant, il avait un contrat. Et là, ma mère s'est aperçue qu'il y avait quelque chose dans son ventre. La deuxième, il y a déjà ma sœur aînée, on est juste deux. Et là, elle a dû rester pour me mettre au monde. Et ensuite, elle est partie rejoindre mon père, qui était à ce moment-là au Bénin, le premier pays d'Afrique qu'on a fait. Et puis, on est resté avec notre grand-mère, les deux. Puis, à l'âge de 2 ans, puis ma sœur avec 3 ans. Donc, elle est revenue nous chercher. Et on est parti avec elle. Et puis, c'est là qu'on a commencé aussi notre parcours en Afrique, puisqu'on a fait le Bénin, on a fait le Congo-Kinshasa. Et le Gabon par la suite. Donc,
C'est vrai que là, tu pars très jeune. C'est sûr que te restent peut-être des souvenirs, des odeurs, des saveurs. En fait, j'imagine que c'est très flou à ce moment-là, mais tu vas quand même, l'école primaire, tu vas faire ça en Afrique.
Oui, bien sûr. Là, ouais, l'école primaire, la découverte aussi de l'enfance, je l'ai faite en Afrique, les odeurs, la culture. Et puis, il faut dire aussi, on était d'origine haïtienne en Afrique, donc il y avait aussi
une espèce de tension raciale.
C'est ça. Donc, alors, on était considérés comme des Antillais qui venaient dans le pays. Puis, bon, prendre un peu ce qu'on connaît aussi au Québec, les jobs des autres.
C'est ça.
Il y avait ça aussi. Mais c'était un moment aussi où on sentait encore tout l'aspect de la colonisation qui était là. D'ailleurs, moi, l'école où j'ai été, c'est l'école privée belge qui était dirigée par des Belges, nos professeurs étaient des Belges, donc...
Et d'ailleurs, on t'associait pratiquement aux Blancs parce que tu venais d'Haïti. Enfin, il y avait, comme tu dis, une espèce de tension raciale. Et puis, finalement, on voulait te mettre du côté des Blancs, mais toi, tu disais non, pas du tout. Et c'est là que la première fois, peut-être que tu t'es affirmé et que tu as commencé à changer les choses.
Exactement. Moi, j'ai changé. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est ça. C'est qu'il y avait la cour d'école et puis, les Africains étaient d'un côté, puis tous les Français, Belges étaient d'un autre côté. Mais nous, comme on était considérés un petit peu d'origine haïtienne, puis après, bon, les parents professionnels, médecins et tout ça. Donc, alors, on voulait que j'aille du côté des Français et des Belges. Puis là, moi, ma couleur me disait que non, j'étais de l'autre côté. Puis alors, finalement, on a appelé mes parents, puis mon père a dit, ben non, elle, c'est comme ça. J'ai dit, non, mais sinon, pourquoi tout le monde ne joue pas ensemble? Et puis, c'est comme ça, finalement, qu'on a commencé à jouer ensemble. Et puis, dans la cour de récréation, maintenant, ça se mélangeait très, très bien.
Ah, Donc, tu as instauré déjà une mixité.
Exactement. J'étais très, très jeune, alors ça, j'en suis bien
c'est
fière.
C'est incroyable, hein, quand même. Alors, ça nous définit, finalement. Même les petites expériences, si petites soient-elles, peuvent changer beaucoup de choses, Alors, après ça, là, évidemment, il y a eu aussi des tensions politiques dans les pays où vous étiez. Alors, c'est sûr que vous avez dû quitter quand même précipitamment. Il y a eu quand même une tentative d'attentat aussi.
Oui, ça a été. On a quitté le Congo-Kinshasa. On avait attenté été à nos vies. Mon père, donc, on était en promenade et puis la voiture avait manqué de frein. Tout avait été trafiqué et tout ça. Ouais. Donc, on est parti à ce moment-là au Gabon. Puis au Gabon, ben, c'est ce qui fait aussi que la famille a été séparée parce qu'il y a eu un autre attentat à nos vies. Ben là, c'était le gaz, le four qu'on avait ouvert et tout. Et à ce moment-là, mon père a séparé la famille. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont continué en Afrique parce qu'ils ont fait quand même 30 ans. Puis nous, ma sœur et moi, on est venus au Canada. Donc, c'est comme ça que la famille a été séparée parce que mon père s'est dit, ben on a juste deux filles, on ne veut pas...
Ouais. Il l'a fait pour vous protéger.
Tout à fait, à ce moment-là.
Alors, c'est ça, vous habitiez chez une tante, hein, je pense, ici au Québec, qui était déjà bien installée.
C'est ça.
C'était pas dans la région de Hull?
Oui, voilà, justement. J'ai atterri à Hull, très bien. Et puis, je me souviens de ça. C'était toute la découverte aussi. Puis de comprendre la langue et tout. Alors, j'ai toujours des anecdotes lorsque j'ai dit, dans la cour de récréation, on me dit, c'est-tu le fun? C'est-tu le fun par chez vous? C'est-tu le fun? Je dis, oui, on a le téléphone.
Tu en as plein de, comme ça, des anecdotes savoureuses.
C'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Et puis, ça a été une belle intégration, mais je ne peux pas dire qu'elle a été particulièrement difficile parce qu'on avait déjà comme immigré pas mal, même si c'était en Afrique, on a fait quand même, on se séparait ça. Donc alors ça a été plus une adaptation qu'autre chose là avec les amis et tout ça. Ouais.
Mais à l'époque quand même, ça devait être difficile la séparation avec tes parents, j'imagine.
Tout à fait, bien sûr, ça a été difficile parce que bon, on était dans l'adolescence,
c'est
donc
ça.
Besoin des parents, besoin beaucoup de questions. Et tout ça. Donc, alors ça, au niveau plutôt émotionnel, ça a été plus difficile. Et puis, ça m'a pris des années après pour comprendre aussi, en devenant adulte, que ça a été le meilleur choix de mes parents à ce moment-là, parce qu'ils voulaient, c'était dans un esprit de protection et un esprit aussi de dire qu'ils nous donnent le meilleur, de venir faire les études au Canada, qui était quand même très bien coté à ce moment-là pour les études et tout ça. Donc, toujours d'ailleurs, mais je veux dire, la décision avait été prise dans ce sens-là aussi.
Mais à l'adolescence, on ne comprend pas
non.
ça.
Non, on ne comprend pas.
C'est rendu à l'âge adulte.
C'est à l'âge d'adulte
que tu comprends que, mon Dieu, si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes parents.
Ben voilà, c'est ça. On fait un peu la paix avec ça.
Oui.
C'est-à-dire, c'est ça, puis de comprendre que, oui, c'est sûr. Puis je le dis tout le temps, si je suis devenue l'adulte que je suis actuellement, c'est grâce à ces décisions-là qui ont été difficiles dans l'enfance, mais que...
Ils ont fait un beau sacrifice.
Oui, tout à fait.
Bon. Et à quel moment vous allez vous retrouver tous ensemble?
Ben, finalement, on va se retrouver en 2010 tous ensemble. Et puis, c'est vraiment le tremblement de terre en Haïti.
Oui.
Parce que eux, après les 30 ans en Afrique, ils n'ont pas voulu venir au Canada parce qu'il y avait le froid, puis tout ça. Puis, bon, ils n'avaient pas vraiment besoin de ça. Ils voulaient faire quand même leur retraite dans leur pays d'origine. Et lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, c'est là que j'ai été les chercher et qu'ils sont encore avec moi là, jusqu'à aujourd'hui.
Ah oui, parce que tu es partie là, comme sur des chapeaux de roue, finalement, tu as réussi à les retrouver.
Oui.
C'était pas évident. Hein,
c'était pas évident du tout. J'avais pas de nouvelles. Et puis, ils étaient décédés parce que tout le monde, quand on n'avait pas de nouvelles, ils étaient décédés.
C'est
donc,
ça.
Les frontières, faut pas oublier que l'aéroport était fermé et tout.
Exact.
Donc,
il fallait passer par
la République dominicaine. Donc, j'ai fait la route en autobus.
C'était toute une aventure.
C'était toute une aventure pour arriver là. Ouais.
Et finalement, bon, arrive le temps où des études, bien sûr. Alors, tu vas te retrouver à Moncton.
Oui.
Alors, vraiment un drôle de parcours. Oui, c'est ça. Tu t'en vas étudier là-bas. Alors, tu découvres encore là une autre culture, hein, complètement.
Exactement. Puis, un peu avant Moncton, c'est parce que, comme j'avais l'habitude de changer de pays, changer de ville, c'est comme si, pendant que j'étais ici, il fallait que je fasse le même truc. Donc, alors, j'ai commencé à Hull, Ottawa. Ensuite, j'ai fait le cégep à Québec, de Limoilou. Puis de Limoilou, je vais à l'Université de Moncton. Donc, je voyageais à l'intérieur.
Oui, de nos propres frontières,
voilà.
En quelque sorte, oui. Alors, tu vas étudier, bien sûr, aussi par la suite à l'Université du Québec, l'Université de Montréal. Donc, tu vas étudier en traduction, entre autres, mais aussi en journalisme.
En journalisme, c'est ça. Donc, j'ai essayé en traduction. Je voyais que c'était pas moi. J'ai fait seulement un an. Et ensuite, j'ai été en communication journaliste. Et puis, ça, j'ai adoré faire. D'ailleurs, c'est ce qui me retrouve après plusieurs années après au micro. Mais j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, l'administration est venue. Et puis, j'ai dit, bon, je commençais à avoir des postes aussi en administration. Et puis là, je me suis dit, bon, ben c'est ça, c'est la carrière. C'est là que j'ai fait ma plus grande carrière au niveau de,
ouais, au niveau de l'administration.
De, ouais, gestionnaire. Mais j'ai adoré la partie où j'étais journaliste et puis qu'on travaillait.
Ben, tu as touché aussi toutes sortes de sujets sensibles, forcément.
Oui, oui.
Alors ça aussi, ça nous définit en quelque sorte. Là, ça va avoir des répercussions pour plus tard. Là. Alors, oui. Bon, il y a un événement, il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie de, mm-hmm. très particulier, mm-hmm. qui va aussi définir aussi un peu ce que tu vas faire plus tard, parce que ça va amener une sensibilité très particulière. Mm-hmm. En fait, à l'âge de 18 ans, mm-hmm. tu perds subitement la vue.
Oui, oui, tout à fait.
Tu deviens carrément dans le noir. Là.
Aveugle, complètement. Aveugle. Oui, complètement. Puis c'est quand même tragique parce que cette vue-là, on la perd par degré. Donc, la moitié du regard, on voit en haut et en bas, c'est noir. Et ensuite, c'est le blanc, le noir total. Ce qu'on appelle une amaurose, c'est une perte temporaire de la vue. Et à ce moment-là, ça avait été provoqué par la pilule contraceptive qui était assez forte à l'époque. Donc, finalement, c'est un caillot de sang qui a eu le temps de monter en tout cas, selon les médecins, je ne suis pas médecin, mais c'était ça. C'est le caillot de sang qui s'est placé derrière le nerf optique. Donc, ça veut dire qu'une chance aussi, parce que ça aurait pu avoir une hémorragie mm-hmm. cérébrale par la suite, etc. Mais j'ai perdu la vue 48 ans.
48 mais ça a pris ouais. combien de temps, par contre, avant de savoir? Parce que là, tu dis, je perds la vue. Je vais être comme ça combien de temps? Est-ce que c'est à vie? Alors là,
c'est
avant
ça.
D'avoir le diagnostic, tu as ouais. dû quand même
ah ouais, tout à fait.
être angoissée. Là.
Ah non, être angoissée. Puis je me souviens, j'étais ben, justement au cégep. Puis là, je me disais, moi, je voulais aller à l'université. Je voulais ben faire oui. plein de choses. Là, je me suis dit, je ne pourrais pas. Et puis quand on arrive à l'hôpital, ils se disent, bon, est-ce que c'est une tumeur au cerveau? Est-ce que c'est... Tu sais, il y a plein de choses qu'on sait pas. Puis là, on est jeune, on saisit pas trop hein, mm-hmm. Tout ça. Et puis finalement, ils m'ont gardée. C'était à Québec, à l'hôpital. Et puis, ils m'ont gardée. Et finalement, après les tests, ils disent, bon, c'est ça. Et je retrouve la vue. Et puisque on la perd graduellement, la vue, mais quand on la retrouve aussi graduellement. Donc, pendant plusieurs heures, on voit la moitié noire, moitié en image. Donc, c'est quelque chose de paniquant.
Mm-hmm.
Et je retrouve la vue comme ça, mais à toutes les fois, on a peur que ça revienne parce qu'on veut pas vivre ça. Donc, puis en étant jeune, j'étais... Puis je me souviens, j'étais couchée, on m'a mis couchée avec intraveineuse et tout ça, le sérum. Puis là, j'étais là, j'ai dit, mais tu pourras plus rien faire.
C'est
tu
ça,
pourras
tu
plus.
Réfléchis puis, sur la vie.
La vie.
La vie, ce qui s'en
c'est
vient.
C'est ça, exactement. Puis on se remet aussi à une époque où on n'avait pas autant d'aide. Hein. On n'avait mm-hmm. pas tout ça, ces organisations et tout ça. Donc,
oui, tu es trop jeune aussi pour appréhender tout ça, savoir
voilà.
Comment tu vas pouvoir survivre à tout ça, finalement. Mm-hmm. Alors, ça, c'est un événement qui, bon, c'est ponctuel, d'accord, mais évidemment, très traumatisant, forcément. Et puis, alors, là, par la suite, forcément, tu vas être sensibilisée là, à tout ce qui touche le handicap, mm-hmm. Bien sûr. Alors, mm-hmm. tu vois, justement, ton engagement par rapport à la déficience intellectuelle, entre autres.
Oui.
Et puis, après ça, va venir la magnétothèque,
oui.
qui est, enfin... Canal Vie aujourd'hui.
Ouais, oui,
pas Canal Vie, Canal M aujourd'hui.
Oui,
je sais, je fais toujours
ça. Oui, c'est ça.
Ça m'arrive souvent. Canal M aujourd'hui.
Ben oui. Oui, tout ça. Parce que quand j'ai eu l'offre de travailler ici, j'avais pas. En plus, je n'avais même pas mentionné cette partie-là parce que je ne voulais pas non plus que ça fasse cliché tout de suite, etc. Donc, mais j'avais vraiment ce besoin-là. J'ai compris que la culture, l'information, c'est tout ça nous fonde. Hein. Ça fait qui on est. Puis, manquer de vision. Puis, lorsque j'ai su aussi que 80% de l'information passait par nos yeux, on a juste 20% qui passe par nos autres sens. Donc, ça veut dire que tu as 80% de l'information que tu n'as pas.
C'est ça.
Donc là, ça m'a vraiment fortement interpellée. Puis là, je me suis dit, non, je veux travailler dans une organisation. Puis d'ailleurs, j'y suis depuis plusieurs années, mais c'est les défis, et entre autres, qu'on a relevés pour amener l'organisation jusque-là, jusqu'à ce qu'elle soit aujourd'hui.
D'ailleurs, rapidement, l'histoire de la magnétothèque. Oui. C'est André Hamel, qui était un étudiant, qui est en train de préparer sa maîtrise, puis a perdu la vue.
Exactement.
C'est ça. Puis là, il a remué ciel et terre pour essayer de trouver des ressources, mais il voulait absolument terminer ses études. Oui. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'après après des nombreuses années de démarches, il a réussi à obtenir son diplôme, mais grâce à une école à New York, qu'il a réussi à avoir de l'aide.
C'est
mais
ça.
Là, tout ça pour dire qu'il s'est dit, hey, on va créer quelque chose de similaire
exactement.
Ici.
Exactement.
C'est né de là.
C'est ça, exactement. C'était le Recording for the Blind.
C'est ça.
Il a été voir un peu le chose, puis il recevait des livres de là aussi, puis là, il s'est dit, non, ça mérite d'être produit au Québec, et c'est justement ça. Il a créé la magnétothèque de l'époque.
Ouais, puis c'était une soixantaine d'étudiants non-voyants, malvoyants, qui faisaient des lectures de livres. Ils étaient tous bénévoles. Puis écoute, c'est une histoire incroyable.
Toute une époque quand même,
Oui.
Alors vraiment, c'est les débuts de Canal M, bien
Canal
sûr.
M,
mais avant ça, quand même, tu as fait d'autres parcours là, dans des OM, dans des
OBNL. Oui, tout à fait. Ben, j'ai travaillé pour la déficience intellectuelle. J'ai travaillé aussi une organisation qu'on connaît moins, c'est pour qui regroupe les groupes infertiles. Pas parce que j'ai eu à subir utiliser les in vitro et tout ça, mais parce que pour moi aussi, j'étais une femme qui voulait avoir des enfants, etc. Donc, j'étais sensibilisée aux femmes qui le désiraient et que ce n'est pas par choix qu'elles ne pouvaient pas avoir. Donc, j'ai été directrice aussi des communications et directrice générale aussi de cette organisation-là.
Ouais, d'ailleurs, tu es maman, tu as quand même de grands-enfants aujourd'hui. De beaux grands-enfants. D'ailleurs, on peut le dire, tu es quand même en restauration avec ton fils. Là,
avec ma fille.
Avec ta fille.
Oui, avec ma fille. Donc, un beau restaurant lounge qui donne aussi la cuisine plus créole fusion, donc qu'on a créé ça ensemble, mais c'est elle qui s'en occupe, et puis c'était son dada et tout. Donc alors
elle est où, ce restaurant là
alors c'est au 4 rue Saint-Charles dans le vieux Longueuil.
Okay.
Ouais, donc alors c'est tout récent, ça fait à peine
un mois et demi.
Oh, et puis puis ça va bien. Justement, là aussi c'était d'aller dans les diversités, dans cette métissage dont tu parlais, Chantal, le métissage, parce
que...
Des saveurs et tout ça. Et étant d'origine haïtienne, c'était pas un restaurant haïtien qu'on voulait faire, mais on voulait aller dans tout l'aspect créole des choses et de la fusion, puis des différentes saveurs. Donc, alors voilà.
Ah, alors ça, c'est ton côté femme d'affaires
en même temps. Exactement.
Qui, tout ce que tu as fait au niveau de l'administration. Alors ça, c'était un autre volet de ta personnalité. Mais ce que tu fais aussi, ici même, à Canal M, tu animes également une émission.
Oui, alors il n'y en a pas assez
femmes.
Sur la table. Chantal et Nathalie, tu sais. Non, la table n'est pas encore assez pleine, donc...
je trouve ça incroyable, je ne sais pas où tu trouves le temps.
Alors, c'est ça, donc vivement les femmes, c'est arrivé aussi il y a déjà 2 ans, où je me disais, tu sais, j'ai envie, parce que comme je vous disais, j'ai aimé le journaliste et tout ça, la radio, là j'ai dit un retour, et puis j'ai posé la question au conseil d'administration, j'ai dit, si j'avais une émission, tout ça, est-ce que je serais en conflit d'intérêts? Puis là, les membres, mon président, puis ils disent, ben non, elle dit, est-ce que tu seras payée? Je dis, non. Ah, ben parfait, Marjorie, pas de problème, vas-y. Alors, j'ai mis ça, puis c'était vraiment pour rencontrer aussi justement des femmes qui ont des projets d'affaires, qui aussi ont des missions, qui se sentent investies. Donc, alors, c'est...
Et tu les trouves
ça.
Comment, ces femmes? Ben, elles sont partout,
Elles sont
tout autour de nous.
Voilà. Et puis, mais ce que j'aime, c'est cette beauté-là, lorsqu'on met de l'avant une femme, c'est de voir aussi comment que c'est apprécié. Parce que pour une fois, parce que c'est quand même une heure de temps, elles peuvent parler de leur projet en long et en large, pas seulement 10 minutes ou une demi-heure. Donc, c'est important pour moi de mettre ces femmes-là en valeur, puis qu'elles puissent dire, de passer à travers leur parcours aussi, justement un peu ce que vous faites là pour moi, c'est-à-dire comment elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est là qu'on voit tellement de liens avec le parcours de l'enfance et tout. Donc, c'est ce que je voulais faire, mais elles sont extraordinaires. Et puis, puis moi aussi, puis c'est un échange, hein, parce que ça me donne aussi de les rencontrer.
Ça
me
donne, exactement. C'est stimulant, bien sûr. Alors, vraiment, tu les fais briller aussi. Ben, récemment, là, je pense que tu as reçu Jannick Leblanc, hein,
une femme, bien sûr.
Aussi journaliste, voilà. Qui est bien connue dans les maritimes et tout. Enfin, il y en a tellement, mais est-ce que tu te souviens de rencontres plus particulières, plus marquantes?
Oui, tout à fait. Ben, je prends celle avec Amina Gerba, qui est sénatrice actuellement, et elle, c'est qu'elle n'a pas... Elle n'a pas été à l'école pendant son enfance parce qu'ils étaient, si je ne me trompe pas, 19. Et c'était les garçons qui étaient privilégiés. Et là, maintenant, elle est arrivée, elle a fait ses études, elle est arrivée, elle a créé sa compagnie qui a bien marché, qui marche encore et qui finalement s'est lancée en politique. Elle a été nommée sénatrice, je pense, il y a quelques années. Mais c'est ça, je me dis, mais les ressources qu'on a intérieures, qui sont à l'intérieur, puis avec les valeurs que l'on se met dans la vie, ben on arrive à faire des parcours que au départ c'était voué à l'échec, hein, de dire ben on n'a pas eu la scolarité pendant l'enfance, mais alors on voit que c'est non.
Et ça prend beaucoup de détermination, hein, pour se dire, écoute, j'en arrive là, j'ai pas eu la possibilité d'aller à l'école. Et aujourd'hui, je suis là où je suis, c'est incroyable.
Ces femmes-là,
puis souvent, il y en a qui ont des parcours difficiles.
Difficiles.
Hein? Oui, c'est pas que des parcours, juste des parcours faciles. Là.
Non.
Et effectivement, je pense à la détresse de deux mères que tu as rencontrées dernièrement, des dames originaires de la Côte d'Ivoire,
qui
en fait, on leur a enlevé la garde de leur enfant. Enfin, il y a tout un contexte, là, et puis très, très touchant comme histoire. Mmh, là.
C'est ça. Alors, c'est ce que je veux démontrer aussi, c'est qu'il n'y a pas juste le beau de l'histoire, c'est que y a de certaines histoires, il y a tout le cheminement de voir tout le travail qu'il y a derrière ça aussi. Parce qu'on est dans l'ère où tout a l'air trop facile. On veut montrer... comme on dit en anglais, le front, le devant, mais sauf que l'arrière-scène, il y a eu du travail, il y a eu des blessures, il y a eu plein de choses pour arriver là. Donc, c'est cette émission, je voulais aussi qu'elle démontre ça, parce que de défaire aussi cette façon de... facile de dire qu'on devient riche, une femme à succès, et puis que tout est fait comme ça. Non, c'est de la pensée magique. Il y a le travail qui est derrière, il y a tout ce parcours-là. Bon, c'est ce que je veux démontrer aussi dans cette émission.
Oui, tu le fais avec ta façon à toi, avec ta couleur, ta sensibilité, ton écoute. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. On l'écoute à quel moment, cette émission? En général.
Alors, donc, c'est le mercredi, ça passe de midi à 13h, donc vivement les femmes, et c'est repassé à 19h en boucle, mais voilà, donc c'est le mercredi. Et aussi, ben, on sait que Canal M se retrouve partout, on peut la voir en balado et tout ça. Donc,
tu as gagné, tu as remporté quand même des prix, des distinctions, enfin, notamment pour prix du leadership au féminin du concours Estime de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Il y en a eu bien d'autres, mais aussi tu représentes Canal M même aux Nations Unies.
Oui, ben tout à fait, parce que Vues et Voix est une organisation accréditée auprès des Nations Unies, donc c'est-à-dire que on y va là, on partage nos points de vue, on dépose des mémoires, donc c'est ce que j'ai fait pendant quand même quelques années, donc pour faire avancer les causes, comme la Convention des personnes handicapées, il fallait qu'elle soit signée, donc on travaille aussi avec le gouvernement pour faire avancer ces causes. cause-là. Donc, alors, Canal M et Vues et Voix sont toujours un peu en place pour justement permettre que, ben, il y ait toujours des améliorations dans le système. Hein. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup déjà d'organisations, il y a des services et tout, mais il y a tellement encore de manques qu'il ne faut pas lâcher, puis il faut être là. Là où les décisions se prennent.
Ouais. Et puis, on a un partenariat aussi avec Radio-Canada, je
oui,
pense.
Oui,
c'est intéressant. Ça, c'est une nouveauté quand même. C'est assez récent.
Ah non, c'est assez récent. C'était vraiment... ben là, je dois une fière chandelle à Philippe Lapointe qui a amorcé justement cette collaboration-là. On y était, on y allait ensemble pour permettre aussi que Radio-Canada, qui, de par son mandat aussi, doit travailler avec les personnes handicapées et tout. Donc, on avait ce beau partenariat qu'on pouvait faire justement pour que Canal M soit représenté sur la plateforme de Radio-Canada et Radio-Canada aussi sur la plateforme de Canal M.
Voilà, c'est un bel échange, un beau partage de connaissances et de balado et tout. Alors, vraiment à suivre. On s'arrête le temps d'une pause et puis on va accueillir une autre invitée. Alors oui, Catherine Adams qui sera avec nous après la pause et puis vous avez plein de choses en commun, j'en suis certaine. Alors, on s'arrête et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième moitié d'heure.
Merci.